Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Faz. Salut Faz.
Salut Raph, comment ça va?
Bah très bien, et toi?
Ouais, ça va, impeccable. Hein.
Merci super d'avoir content d'être là. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'aime bien être transparent avec les gens qui nous écoutent. Toi et moi, ça fait déjà la troisième fois qu'on se rencontre.
Ouais,
voilà, on a déjà fait une vidéo et un article ensemble.
Ouais.
Bon, cette fois-ci, c'est un format audio chez Bouscapé, donc c'est quand même une première d'une certaine manière. Ouais. Mais on se connaît déjà un petit peu, voilà. Je ne te découvre pas entièrement aujourd'hui.
Non, carrément pas.
Mais c'est l'occasion, en tout cas, pour ceux qui écoutent ce podcast, d'en découvrir plus sur toi. Alors, comme j'ai coutume de faire, je vais faire un CV accéléré, même si après on va revenir sur ton parcours.
Okay.
Donc, Faz, producteur qui travaille avec Orelsan depuis La Fête est finie, mais a aussi collaboré avec Kobalade, SCH, Lyonzon ou encore Sneezy. Tu as également eu un début de carrière comme musicien à ton propre nom, dans ce qu'on a appelé la scène SoundCloud.
Ouais.
On va en parler tout à l'heure. Et puis, tu es aussi musicien de scène, puisque tu joues pour Orelsan, en l'occurrence, pendant toute cette dernière tournée de Civilization. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que ça va? Est-ce que t'es pas trop fatigué de cette année 2022?
Je suis éclaté.
Parce que pour rappeler la chose, j'ai à peu près compté entre les dates en votre propre nom, au nom d'Orelsan, plus les dates des festivals, j'ai compté presque 80 dates, peut-être
je
même
crois,
plus.
Je crois qu'on a dépassé les 90 dates.
Ouais, ok, plus de 90
ouais,
dates.
Ouais, je crois, si je me trompe pas. Peut-être Paul pourra me contredire derrière.
Paul
ou pas.
Qui est ton manager.
Exactement.
Voilà, je sais pas. Voilà.
Bon, bah, écoute,
c'est l'estimation entre 80 et 90, quoi, c'est
ouais,
ça.
Exactement.
Ouais, c'est sport.
Ouais, franchement, c'était super technique, mais en même temps, tellement d'énergie transportée par tout ce public, tu vois, qui nous a suivis tout au long de cette tournée. Donc, franchement, c'était incroyable et j'en garde des souvenirs mémorables.
Alors, j'ai envie de te poser une première question difficile comme ça d'emblée. T'as préféré la tournée de La Fête est finie ou la tournée de Civilization?
Honnêtement, c'est pas comparable.
Okay.
C'est pas comparable parce que il faut imaginer que la tournée de La Fête est finie, c'est un peu ma première expérience de grosse tournée. Mm-hmm. Donc je le vis pas de la même façon. Avec le recul, je pense qu'il y a eu vraiment un genre d'espace temporel où j'ai rien vu passer.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire pendant La Fête est finie, parce que beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de pression aussi que je m'étais mis.
Mm-hmm.
Parce que, pour remettre aussi dans le contexte, à l'époque, donc, quand je rencontre l'équipe pour travailler sur l'album, assez rapidement, je me retrouve donc à petit 1, bosser sur l'album,
mm-hmm.
petit 2, qu'on me propose de devenir musicien sur mm-hmm. la tournée, et petit 3, de aussi faire les premières parties.
Tout à fait.
D'une partie de la tournée.
Donc, tout était nouveau.
Tout était complètement nouveau. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Là, Civilization, on était dans un autre contexte.
Mmh. Vous étiez un peu plus rodé.
Ouais, exactement. Puis ça y est, maintenant, je fais clairement partie de l'équipe. Mmh. Je me sens vraiment, intégré à ma place. Et donc, c'est plus facile aussi de moins se mettre de pression, d'être plus à l'aise et d'être aussi plus focus sur ce qu'on doit faire. Et plus naturellement, j'ai envie de te dire que je crois que j'ai peut-être un peu plus profité de cette tournée, en fait.
Tu vois. Oui, puisque tu étais plus détendu, justement. Donc...
Ouais. Du coup, je pouvais un peu plus être spectateur aussi de ce qu'on vivait, là où sur la tournée précédente, j'ai pas eu le temps de réaliser, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Alors justement, on va raconter tout ce parcours qui t'a mené jusqu'à cette tournée La Fête est finie et tout ce qui a été fait depuis avec Orelsan et toute l'équipe. Avant, j'aimerais au moins échanger avec toi sur tes débuts en tant qu'auditeur de musique.
Oui.
C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique?
De la musique classique dans des dessins animés quand j'étais petit.
Mm-hmm.
Tu vois?
Genre Fantasia, ce genre de truc.
Ouais, exactement, ouais. Genre de truc comme ça. Même j'ai des souvenirs un peu des trucs. Alors peut-être je me trompe, hein, peut-être que je fais une association d'idées bizarres, mais je me demande s'il n'y a pas de la musique classique aussi dans les Looney Tunes.
C'est fort possible, ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, tout à fait.
J'ai des petits souvenirs comme ça. Donc je dirais c'est assez tôt.
Ok.
En fait, tu vois. Genre des 3 ans, quoi. Tu vois. Mais au final, bon, on en avait déjà discuté, mais j'ai commencé la musique assez tôt, en définitive. Ouais, le piano, j'ai commencé ouais, voilà, vers entre 3 et 4 ans. Quoi.
Okay.
Un peu par hasard, au final. Et au final, j'ai jamais arrêté derrière. Tu vois, ça a duré jusqu'à présent.
Parce que, effectivement, tes parents t'ont proposé, ou en tout cas t'ont inscrit au conservatoire, c'est ça?
Ouais, alors pas directement au conservatoire, okay, parce que j'étais trop jeune.
Okay.
Et puis à l'époque, je crois pas qu'il y avait autant, tu sais, de classes d'éveil musical comme on connaît aujourd'hui,
bien
etc. Tu vois. Donc il fallait que j'attende d'être un peu plus grand pour pouvoir accéder au conservatoire. Donc okay, au départ, c'était des cours particuliers. Et puis je suis rentré au conservatoire vers 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
Mais c'est tôt quand même, mine de rien.
C'est assez tôt. Ouais. Franchement, c'est assez tôt. Et honnêtement, c'est une chance d'avoir eu accès à ce bagage de connaissances si tôt. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a permis d'avoir pas mal de connaissances sur tout un tas de choses que des fois mes pères n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Et père P-A-I-R-S, tu vois.
Tout à fait, ouais.
Et du coup, on se complète très vite sur tout un tas de jobs et c'est sa défense. Donc, je suis très fier.
Mais en parallèle de ça, tu es un enfant et un adolescent des années 90-2000.
Ouais.
Donc, tu découvres au sens très large la pop musique, notamment ouais, les musiques électroniques et le rap.
Exactement.
C'est quoi tes premiers souvenirs en particulier sur ces genres musicaux-là qui vont te marquer et te faire tomber amoureux de ces musiques-là, quoi?
Alors, je te dirais des trucs assez... entre guillemets classique, tu vois. Mes premiers souvenirs de musique, c'est Daft Punk, 50 Cent, Timbaland, Britney Spears. Mais c'est très naïf au départ.
Bien
tu vois ce que je veux dire? Tu connais pas, t'es jeune.
T'es emporté par la mode et l'effet de groupe aussi, peut-être,
ouais,
d'une certaine manière.
Puis l'accessibilité était différente, tu vois. J'achetais encore des disques, j'allais encore à la Fnac, tu vois. C'est un peu plus tard que j'ai eu genre Emule, tu vois, que j'ai pu télécharger illégalement de la musique.
Je pense qu'on est tous passés par là.
On est forcément tous passés.
Quand on a été adolescent dans
exactement,
les années 2000, on est tous passés par le piratage.
Exactement, avec la petite clé USB.
Voilà.
Exactement. Donc ouais, c'est... Mais au final, c'était vachement cool parce que c'est une période qui nous a, je pense, tous forgés, tu vois, dans notre quête de personnalité musicale, tu vois, parce que ça nous a permis d'accéder à tout un tas de musiques auxquelles on ne pouvait pas spécialement accéder à la Fnac, tu vois, à moins que tu passes une journée entière. Et encore, de toute façon, dans les slots là où tu pouvais écouter les CD, tu ne pouvais pas écouter tout ce que tu avais dans la bibliothèque. Donc,
bien sûr,
gros, tu avais ce qu'il y avait à dispo et basta, quoi. Donc... ouais, là, l'univers du possible était incroyable, quoi.
Est-ce qu'il y a eu des moments de contradiction entre ce que tu apprenais en conservatoire, qui est de la musique très académique d'une certaine manière, de la musique classique, peut-être aussi du jazz, etc. Bref,
ouais,
des choses qui sont très codifiées,
ouais,
sur lesquelles il y a une certaine exigence de ce qu'est le beau en musique.
De ouf.
Et justement, toutes ces musiques pop où c'est plus l'instinct et l'émotion qui dominent, quoi.
Grave. Mais tu sais que ça m'a complexé pendant quelques temps. Surtout quand j'étais ado, en fait. Parce qu'en gros, si tu veux, la force de passer par un parcours comme ça, c'est qu'en fait, très vite, surtout en plus si tu commences tôt, tu vas devenir assez vite virtuose. Et je parle pas pour moi, hein, c'est pour n'importe quel musicien qui commence tôt, qui va travailler.
Bien sûr.
Forcément, il va devenir bon, quoi. C'est logique. Et le cadre de la musique classique, comme tu le dis, tend vers toujours le meilleur, le beau, l'excellence. Voilà. C'est un truc qu'on essaie de nous transmettre assez vite, qui est très vite en contradiction avec un peu l'esprit que tu peux avoir justement des fois adolescent, et les rencontres que tu peux faire justement aussi adolescent, que ce soit à travers des groupes de musique, à travers, en tout cas, des expériences de musique commune, tu vois, en groupe. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'il y a des contradictions évidente, tu vois, de genre le fun versus bien faire, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'à cet âge-là, t'as juste pas conscience de la place, on va dire, de ton expertise à ce moment-là et dans quelle mesure t'es pertinent ou pas.
Bien sûr,
que je veux dire.
T'as pas une conscience aiguisée toi-même, en
Exactement, t'as juste envie de montrer à tes potes que tu connais certaines choses et que tu peux les aider, mais en fait, c'est archi pas pertinent, tu vois. Eux, ils veulent juste avoir du fun et toi, t'es même pas foutu de leur offrir ce fun parce qu'au final, t'es un peu bridé par tous ces genres de... Au final, c'est des limites un peu que tu te crées, tu vois, qu'on t'a un peu...
C'est des cadres.
Ouais.
C'est très cadré, en fait, justement, ce que t'apprends au conservatoire.
Et c'est pour ça qu'au final, d'aller vers des études de jazz après m'a un peu libéré de tout ça et m'a un peu via l'improvisation, via tout un tas d'exercices comme ça. Et ça m'a permis de justement être plus à l'aise en groupe et de pouvoir m'intégrer, tu vois.
Ouais.
Et là, ça a commencé à devenir moins frustrant et moins complexant. Tu vois, c'était cool.
Quand est-ce que tu passes du piano à des peut-être logiciels ou machines de composition assistée, de musique assistée par ordinateur et que tu commences vraiment à te former en tant que producteur, souvent en autodidacte hein,
je pense qu'on le fait tous un peu comme ça à cette époque-là. Ça commence un peu vers la fin du lycée.
Mm-hmm.
Notamment par... beaucoup de découvertes de musique électronique et un peu l'envie de refaire ça, quoi, tout simplement.
Qu'est-ce que tu copies ? C'est quoi tes modèles au début
French Touch.
Ouais,
French Touch. J'essaie un petit peu de reproduire des trucs comme ça. C'est éclaté au sol. J'étais nul, mais nul. Et c'est un peu là qu'a commencé un peu le périple de... Voilà, j'essaie d'apprendre à produire. Je me prends un peu des frustrations de « Ok, tout ce que je fais dans le logiciel, c'est pas beau à entendre », alors que quand je me pose 5 minutes sur mon piano, chaque seconde est incroyable parce qu'un piano, ça sonne incroyablement bien.
Et puis tu maîtrises, ça c'est des années aussi de...
Oui, mais je veux dire, toi, t'appuies sur une note de piano, elle est belle, tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Je te fais faire ça dans un logiciel de musique, elle est pétée cette note, tu vois ce que je veux dire ? Faut savoir... la régler, machin, tout ça. Il y a savoir choisir le bon plugin, les bons effets. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais juste le fait de jouer une note de piano dans une pièce, ça donne déjà une couleur de son qui ne sera pas la même dans une autre pièce, etc.
Selon l'acoustique, plein de choses.
Tout à fait. Mm. Et donc, ton but, toi, dans le logiciel, c'est un peu de simuler un peu tous ces cadres un peu de vie normale, en fait. Et au début, tu ne comprends pas. Donc c'est nul, mais à force d'acharnement, on y arrive.
Le boulot, de toute façon.
Hein, ouais, exactement. Ça fonctionne. C'est comme ça que je suis... comment dire ? Que tout simplement, moi-même, je suis assis en face de toi aujourd'hui.
Bah donc, oui, voilà. La passion et le travail en parallèle. Alors, sur toute cette partie de jeunesse de ta vie, tu étais à Béziers.
Ouais.
Ensuite, tu vas faire tes études à Lyon, de musicologie, justement.
Ouais, exactement.
Et là, c'est un point important de ta carrière, puisque c'est là aussi où tu fais des rencontres qui vont être déterminantes à la fois dans ta casquette de producteur de musique électronique, mais aussi de ces premiers pas que tu fais dans le rap.
Ouais, tout à fait. Les deux se font en parallèle à ce moment-là, parce que... tout simplement, déjà, j'aime ces deux styles de musique. Et puis, je suis encore dans cette fougue où j'ai envie d'essayer plein de choses. Alors, en fait, tu sais quoi ? On va remettre les choses... Au clair, je suis de nature très curieuse, mais en même temps, je peux vite me lasser.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je vais avoir très vite envie de comprendre comment un truc fonctionne, tu vois ? Mais une fois que j'ai compris comment il fonctionne, je vais me dire, bon, ok, comment l'autre fonctionne ? Tu vois ce que je veux dire ?
C'est bon, j'ai fait le tour de la question,
exactement.
Hop, je passe à autre chose.
Ouais, et ce qui est des fois un défaut, mais qui m'a permis en tout cas de découvrir tout un tas de choses assez vite. Et donc, à ce moment-là, je découvre à la fois le monde du DJing, parce que la plupart de mes potes sont des DJ et mixent tous, et sont des passionnés de musique électronique. Et on finit par avoir un petit crew et on
le Troulion crew.
Exactement.
Voilà.
Et on finit par mixer à droite à gauche dans toutes les soirées à Lyon. On a même fini par avoir une petite émission hebdomadaire qu'on streamait de façon complètement pirate sur le net et on invitait chaque semaine un activiste de la musique électronique locale, tu vois. Et donc tout ça déjà m'a permis de comprendre tout un tas de choses dans le monde de la musique électronique, de comprendre toutes ses identités, tout son spectre musical, tous ses codes et les codes de production aussi, parce que à force de rencontres...
Oui, et tu produis pas de la même manière quand tu fais de la house, de la drum and bass...
Du tout, ouais. Exactement.
La trap EDM qui commence à devenir à la
tout
mode.
Tout à fait, qui était à cette époque-là, exactement. Et justement, il y a tout un tas de passerelles qui sont toujours un peu faites, on va dire, à ce moment-là, dans le hip-hop. Déjà un peu à l'époque de DJ Mehdi, quand j'étais un chouïa plus jeune, qui m'avait un peu marqué. Et puis, comme je le dis, un petit peu ces mouvements EDM, trap, qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc au final, je me suis un peu toujours retrouvé un peu là-dedans. Et au même moment, j'avais plein de potes qui rappaient. Malgré le fait que je fasse des soirées à droite à gauche, à mixer avec mes potes et tout. Et puis c'est un fait aussi, j'étais, je pense, le seul à avoir un micro et une carte son.
Ça aide.
Et un ordi pour faire fonctionner tout ça.
Ouais.
Donc du coup, je me suis retrouvé à avoir plein de potes qui passent chez moi, à principalement enregistrer, pas spécialement faire des prods des fois, ou alors je m'y suis mis un petit peu, mais c'était pas ouf. Mais c'était des débuts, tu vois.
Quand tu dis des potes, c'est par exemple la rencontre avec les gens de Lyonzon, par exemple, déjà, de cette époque-là ?
Ouais, Lyonzon, je pense à Jordi aussi, surtout avant. Parce que c'est Jordi, au final, qui me fait un peu découvrir Lyonzon, Freeze, Lala, tous ces gens qui étaient à Lyon à l'époque. Et petit à petit, on va dire, le chemin a suivi son cours, quoi. C'est-à-dire que eux ont un petit peu fait leur petit chemin, ont fait leurs petites expériences musicales, tu vois. Notamment, je parle de 667 ou même que ce soit des Guap, RTT Clan, tout ça, toute cette bande.
Mais c'était un laboratoire idée à chaque fois qu'ils sortaient des nouveaux
exactement,
morceaux.
Ça,
à leur début, ouais.
C'était vachement intéressant, puis c'était un peu les seuls à faire des trucs chelous, un peu trap, bizarre, tu vois, à Lyon, à la base, on est plus un peu boom bap, et puis on va dire que...
Oui, c'est vrai qu'on sortait de, je me permets de te couper, au début des années 2010, fin années 2000, début des années 2010, c'est l'animalerie qui est le crew dominant à Lyon.
Exactement.
Et donc il y a cette esthétique très rap français, boom bap, développée.
T'as tout compris.
Ouais.
Donc en fait, moi je suis un peu fasciné par cette fraîcheur, quoi. Et en plus, comme je t'ai dit, vu les passerelles avec la musique électronique qui se passait un petit peu, pour moi, c'était un peu une logique imparable, tu vois, de naviguer entre ces deux mondes, quoi. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, si on est un peu pragmatique, en vérité, le hip-hop, c'est une musique électronique.
Absolument, totalement.
C'est une musique faite avec des machines. Fin de l'histoire.
Simplement qu'on a des interprètes dessus qui rappent, mais c'est vrai que musicalement, la racine de la chose, ça reste une musique électronique, tout à fait.
Donc, ça me semble pas incohérent, tu vois.
Absolument. Alors, à ce moment-là, tu commences déjà à faire tes premières productions rap, justement.
Ouais.
Est-ce que tu avais des modèles de production et plus particulièrement, est-ce qu'il y a une prod en particulier à cette époque-là, un truc que tu te dis, j'aimerais bien, même si, comme tu disais, tu avais cette curiosité et tu pouvais vite passer à autre chose, j'aimerais bien faire quelque chose qui ressemble à ça. Ce serait quoi un peu ta prod préférée ? C'est difficile parce que j'imagine qu'il y en a plein qui t'ont marqué, mais peut-être déjà vraiment à tes débuts, un truc qui vraiment t'a marqué. Je vais tricher un peu, c'est peut-être une manière pour moi de te faire la passe D sur cette question qui n'est pas facile, mais quand on avait déjà échangé, tu m'avais notamment parlé de l'album Nothing Was The Same de Drake, par exemple. Est-ce que ce genre d'identité sonore, il y a une prod en particulier de cette époque-là, tu vois, ou de cet album, qui a pu être un espèce de déclencheur aussi, de te dire, quitte à faire de la prod, j'aimerais bien, tu vois, avoir une approche un peu similaire.
Alors, pour te répondre sur cet album, From Time, I hate when you're submissive, passive aggressive when we're texting, I feel the distance. I look around at peers that surround me, these niggas tripping. I like when money makes a difference, but don't make you different. Started realizing a couple places I could take it. la délicatesse, le minimalisme, la voix de Jhené Aiko,
le piano,
enfin c'est trop, enfin ça rassemble beaucoup trop de choses que j'aime, tu vois, et qui me touchent personnellement. Et de manière générale, sur l'album, le minimalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Plus jeune, j'étais déjà assez frappé par ce genre de minimalisme, notamment sur The Watcher de Dre, par exemple, tu vois, des trucs comme ça.
Où il y a des silences.
Ouais.
Ce qui arrive assez peu fréquemment
ça,
dans les prod rap.
Avec des petits coups de brasse. Pum, 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 pum. Et la petite zbeu derrière.
Ah, ouais. Pum, pum,
pum, pum. Oh là là, ce morceau, il me fascine. Le petit lead derrière. C'est dans un... Je sais pas, c'est...
C'est hypnotique.
Oh là là, c'est... Ouais, c'est hypnotique et en même temps, c'est un peu malicieux. Tu vois ce que je veux dire? J'aime trop. Donc en fait, j'ai toujours été marqué par une forme d'efficacité dans peu d'éléments. Même si, à côté de ça, j'adore les choses grandiloquentes, tu vois. J'aime les trucs qui tapent, j'aime les trucs qui transmettent beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Mais s'il y a peu d'éléments, c'est encore mieux.
Moi, tu vois, c'est marrant que tu parles de ce truc d'avoir des silences ou finalement d'avoir effectivement peu d'éléments sur lesquels on peut jouer. Dans tes premières productions un peu marquantes, parce que tu commences à produire, faire donc de cette musique qui n'a jamais eu vraiment une forme d'étiquette, de cette musique SoundCloud justement, de musique électronique qui s'inspire de plein de choses, dans le rap, dans la musique électronique, etc. Moi, je sais qu'il y a ce morceau About Her, tu vois, où effectivement, il y a des moments où il y a des suspensions, il y a des délais, il y a des silences. Et je trouve qu'on retrouve un peu justement cette philosophie, tu vois, dans un morceau comme celui-là.
Plaisir que tu parles de ceci parce que justement je trouve que c'est le parfait équilibre entre justement cette grandiloquence et ce minimalisme et à travers le contraste je trouve qu'on se mange encore plus les deux, tu vois ce que je veux dire, et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans la musique, le contraste, tu vois, parce que je trouve qu'on se mange mieux les émotions. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partout, tu vois.
Bien sûr.
Mais dans ce contexte-là, en tout cas, je me le prends bien, quoi.
Ok. Alors, à cette période-là, tu commences à te faire un nom, justement, sur SoundCloud, avec tes productions. Ouais. Parfois, tu le fais à deux, avec Everydays.
Tout à fait.
Qui est quelqu'un qui est également du Sud, mais que tu rencontres à Lyon, qui est de Perpignan.
Ouais, exact.
Et que tu rencontres à Lyon.
Ouais.
Everydays qui va beaucoup travailler aussi, notamment avec Némir, etc.
Tout à fait.
Vous avez donc notamment le projet Almeria, le morceau Almeria justement, qui est important aussi à cette époque. Et t'es également DJ.
Ouais.
Tu commences à tourner.
Ouais.
Il se passe énormément de choses dans un très court laps de temps. Je sais plus, on est peut-être entre 2012, 2014, 2015.
Ouais, c'est ça.
C'est
un peu débile, un peu tout ce qui se passe. Je pense que SoundCloud a un peu vécu les débuts de ce que peut vivre un peu TikTok, tu vois, aujourd'hui, pour pas mal de gens. C'était un peu un endroit qui catalysait plein de jeunes artistes et qui les permettait d'aller partout jouer leur musique, alors qu'ils faisaient leur musique dans leur chambre, tout seul. C'était assez fascinant. Et mais comme tu dis, c'est allé très très vite. Et même pour être parfaitement exact, la première sortie que je fais, c'est chez Soul Action. Et je crois que c'est été 2013.
Mm-hmm.
Et c'était un remix de Cassie,
Me and You. Ouais.
Et de là, c'est enchaîné un petit peu tout ce tunnel de SoundCloud jusqu'à, je pense, 2017.
Mm-hmm.
2017, parce que c'est, si je me souviens bien, c'est le moment où je sors l'album avec Jordi aussi.
J'allais y venir, justement, ouais.
Et le même été où je me retrouve à bosser sur La Fête est finie.
Oui.
Ouais.
L'album de Jordi en question, c'est Avant.
Ouais.
Et c'est ton premier un peu laboratoire à idée sur le rap, justement, cet album.
Quel régal cet album. Qu'est-ce qu'on a kiffé, putain. C'est dans un de mes anciens apparts. 20 mètres carrés, une cuisine, une pièce, un clic-clac, des enceintes. Et on s'était enfermé, je revenais d'Asie, en fait, j'avais fait une tournée là-bas. Et c'était un peu une période où. C'est pas que j'en avais marre, mais. Bon, je pense pas mal de gens en ont déjà parlé ces dernières années, mais il y a quand même un sujet de DJ tout seul en tournée, tu vois.
Avec des destins tragiques, on pense notamment à Vichy, voilà.
Bon, je veux pas non plus dire que j'en étais là, mais honnêtement, c'était rude, quoi. Mm-hmm. C'était rude parce que tu passes ton temps à être tout seul, tu voyages tout seul, tu passes peu de temps dans les villes, tu découvres pas grand-chose.
C'est usant en plus, tu joues tard.
Voilà. Et tu prends tôt l'avion, tu dors pas, c'est un peu merdique. Donc j'en avais un peu marre de ce rythme de vie. Et puis honnêtement, avec Jordi, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire de la musique. Et puis, faut être honnête, à l'époque, on se rencontre. Donc, c'était au début où je faisais un peu de, on va dire, 2-3 prods. Et c'était pas ouf, tu vois. C'était pas ouf. Et puis, entre-temps, j'ai un peu développé justement cette signature musicale que j'ai développée sur SoundCloud. Mm-hmm. Et ça lui a bien plus parlé, évidemment, le fait que j'aille dans des prods très lentes, très sexy, minimaliste, justement. Mm-hmm. Des fois, des samples de voix découpés à droite à gauche, etc. Beaucoup de production vocale. Et Jordi, je pense qu'il était vachement sensible à ça parce que lui aussi, vu qu'il faisait des prods, il a toujours eu un rapport de production de sa voix très vite, en fait. Lui, il traite sa voix à la base quand il faisait des sons tout seul comme un instrument, quoi. Donc on s'est vite capté là-dessus, et au moment où moi j'avais envie de me faire ma petite pause, voilà, de DJ set à droite à gauche, je vais à Shanghai une journée, je reviens, je me fais des pâtes, voilà, tu vois. On a décidé de s'enfermer 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça, 2-3 semaines dans cet appartement miteux, sans luminosité, et on a fait avant. Et c'était incroyable. Je m'en rappellerai toute ma life parce que, comme tu as dit, c'était un moment de pure expérimentation et de. Putain, c'est un des moments les plus purs de création que j'ai vécu, je pense. Vraiment. Parce qu'il y avait zéro limite. Vraiment. Je veux dire, faut remettre dans le contexte, quoi. Jordi, à l'époque, c'est un peu le premier gars que tu entends avec des voix cheloues. Vraiment proposer quelque chose de radicalement différent. Et vous l'aviez entendu auto-tuné. Hein. Mm. Moi, je l'ai eu dans ma pièce. Chanté dans le micro.
Ouais.
Donc, faut se dire que plein de fois, moi, je pétais les plombs. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce que vraiment...
Ça va donner quelque chose?
Est-ce que ça va donner quelque chose? Et je me suis juré de toujours le faire confiance. Et ça a donné avant.
Je trouve qu'il y a un morceau qui symbolise peut-être ce truc d'urgence, de créativité pure, d'être presque sur le fil constamment. C'est un morceau comme Roulé Jeunesse.
Je retourne sa mère, je suis au courant, ta tête, j'ai pas le goût, à la fête, je t'emmerde, roule ma tête, je vais faire simple, faire bref, fais comme si on se connaissait.
Parce qu'il y a très, quelque chose de très poisseux, très.
C'est vrai.
Tu vois, dans ce morceau.
C'est vrai. Mais en même temps, lui, il a toujours été un petit peu fataliste. Hein. Je le vois plus trop aujourd'hui, donc je sais pas trop comment il voit la vie aujourd'hui, mais à l'époque où on faisait ça, c'est vrai qu'il avait une vision très, pas négative, mais un peu désuée de la vie, quoi.
Mmh. Et donc, tu le disais, 2017, c'est une rencontre importante, on en a déjà parlé un petit peu en début d'émission, la rencontre avec Orelsan, voilà, avec cette fameuse anecdote qui racontait, et moi c'est comme ça que je l'ai apprise, cette anecdote qui racontait sur la tournée La Fête est finie, où il t'envoie un mail en anglais,
ouais.
Tu vois, bon, mais je suis français mec.
Exactement.
Et donc il t'appelle avec Aurel et Scred pour participer à ce futur album que va être La Fête est finie. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu arrives à travailler sur cet album?
Alors au départ je reçois les fameux messages d'Aurel. On reste en contact, machin. Il se passe un peu de temps. Et donc arrive ce fameux été où en fait Aurel m'envoie un message et me dit voilà, on est en train de finir l'album avec Scred là, on aurait besoin d'un petit coup de main. Si t'es chaud de passer 2-3 jours, pas plus, t'es le bienvenu. Je dis ok. Là je suis en vacances chez ma mère dans le sud, mais je suis chaud. Je prends un train genre je sais pas, 2-3 jours après, et je me retrouve au studio avec eux, et ben intimidé quoi, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
En vrai c'est un mec que j'ai écouté tout mon lycée quoi, donc petite pression, tu te dis wesh, ça passe quoi là? Genre là ça y est, pour de vrai. Et en fait, ils me mettent tout ça très vite à l'aise, en fait. Le courant passe très vite. On se met très vite à écouter de la musique. J'entends déjà pas mal de titres qui étaient déjà finis. Je crois qu'à l'époque, je me rappelle déjà d'entendre... Bah, déjà, il y avait Basique, c'est sûr. Il y avait...
J'ai le souvenir que tu m'as parlé de Tout va bien aussi, qui était...
Exactement, il y avait Tout va bien. Je me l'étais pris, mais en... T'es pris une sacrée claque. Voilà, il y avait quand même une bonne partie de l'album.
Alors du coup, si l'album était déjà bien avancé, qu'est-ce qu'ils cherchaient en te contactant?
Je pense qu'ils en étaient au point de l'album. Eux, ils voient vachement un album comme un puzzle. Mm-hmm. Et on va dire qu'ils en étaient peut-être à 70% du puzzle. Mais qu'il leur manquait peut-être... quelques petits détails pour aller gratter les pourcentages restants qui permettraient de valider les 30% de l'album. Là.
Le faire passer à peut-être un échelon auquel ils n'avaient pas imaginé en termes de son, de grain, etc.
Exactement. D'accord. Et je pense que je cochais un peu ces cases parce que j'étais un peu plus jeune. J'ai un peu en moyenne 10 ans de moins que les gars. Quoi. Et j'avais d'autres esthétiques, d'autres approches... un truc peut-être un peu plus qu'un riz, au final, tu vois. Parce que la plupart des voix que je travaillais dans les remix, c'était plutôt des esthétiques qu'un riz ou anglaise, ou, tu vois. Donc je pense que tout ça, ça les a un peu touchés. Et puis... Et puis, de toute façon, sont des gens vachement curieux...
musicalement aussi.
Ouais, alors évidemment, mais de savoir ce que par exemple tu peux penser.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est quelque okay. chose, tu vois. Qu'importe qui t'es, ils vont te faire écouter et ils seront vachement attentifs à ce que tu vas faire comme retour. Donc en fait, je pense qu'ils étaient un peu... je sais pas, c'était un pari, quoi. Mm-hmm. C'était pas sûr que ça allait marcher, hein, je pense. Hein. Eux, ils se sont dit, vas-y, on va tester. Et puis, je sais pas, ça a matché, quoi. Ça a matché.
Est-ce que déjà, il y avait une direction très anglaise sur certains morceaux? Tu sais, ce truc très garage, two-step, etc. Ouais. Au moment où t'arrives, ouais. c'est pas toi, par exemple, qui donne cette impulsion. Là, c'est
non.
quelque chose qui existe déjà.
Non. Ça existe déjà. Et de toute façon, Aurel a toujours été drivé par la musique anglaise.
C'est un grand fan de ce street, par
ouais,
exemple.
Ouais,
voilà.
Tu vois.
Dizzy Rascal qui l'invite sur l'album.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Dizzy, tu vois. C'est vraiment un gros fan de ça. Donc, Scred, très tôt, m'avait expliqué que c'était une des pistes qu'il voulait chercher pour cet album. Parce que justement, il cherchait un truc frais, sans tomber dans de la trap, sans tomber dans machin. Mm-hmm. Et ce truc un peu d'hybride, garage, two-step, un peu ce qui a donné Zone, justement.
Dans ma ville, on traîne.
San, ou dans ma ville, effectivement. C'est clairement Scred qui a un peu cette idée au début. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui naturellement va très bien tout au long de l'album et qui dessine assez bien ce qu'on a proposé après sur Civilization.
Tout à fait.
En vrai, tu vois. C'est cool.
C'est ce que m'avait dit Scred une fois, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques années, il y a presque 10 ans de ça. Il m'avait dit, j'ai beaucoup aimé cette théorie, il me dit, ton album d'après, c'est quelques idées que tu as déjà fait germer sur cet album-là.
J'ai tout compris.
Et voilà, et quelque part, on va y venir après sur Civilization, on va pas faire le bond temporel tout de suite, mais ouais. On retrouve ce truc-là, effectivement, de quelques idées qui sont plantées dans La Fête est finie pour germer sur Civilization.
Exactement.
Ouais.
Mais ça, c'est un peu la force des gars, c'est qu'ils ont vraiment la big, big, big picture. Mmh. C'est vraiment... Ils pensent à chaque élément qui entoure un peu l'album, quoi.
Je trouve qu'il y a un morceau... sur cet album, La Fête est finie, où on t'entend, où on entend vraiment la patte que tu apportes, c'est Des Fêtes de Famille. Je trouve que Des Fêtes de Famille, d'une certaine manière, c'est plein de choses que tu as fait justement ces années précédentes.
Ouais.
Et on entend particulièrement ta patte sur ce morceau-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce constat.
Je ne me rends pas compte, mais avec le recul maintenant, ouais, je suis un peu d'accord.
Parce qu'il y a ce côté minimaliste.
Minimaliste, un peu plus trap, débile.
Je déteste les fêtes de famille.
Ouais, c'est vrai.
Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préférer danser avec le chien.
Mais si j'ai plus de 30 ans, et je suis toujours... Non, c'est vrai que c'est rigolo de repenser à tout ça. Mais... En tout cas, c'était une expérience vachement cool et qui m'a donné vachement confiance en moi par la suite. Tu vois, le fait que ça se passe bien à l'époque avec les gars, et qu'ils me fassent confiance et qui me valorisent, c'était vachement cool.
Et en plus, donc, comme tu le disais, ils te font suffisamment confiance pour partir avec eux en tournée.
Ouais.
Tu nous as raconté à quel point ça t'avait mis la pression, il fallait que tu fasses tes premières parties, il fallait que tu assures ton rôle de musicien de scène.
Grave.
Aux côtés de Scred. Et de Eddie Purple.
Ouais, et de Manu aussi.
Et de Manu, tout à fait. Je me disais que j'étais en train de dire. Et de Manu, évidemment. Tu avais déjà connu le live en tant que DJ.
Ouais.
Est-ce que c'était une énergie nouvelle, justement, en termes de retour de vibes, justement, d'être sur scène en tant que musicien, d'un interprète, en termes d'énergie, d'un public qui est différent aussi. Est-ce que tu sens que ça a pu nourrir aussi ton inspiration sur comment le public réagit à cette musique-là?
Complètement. Complètement. Ça m'a fait comprendre certaines choses et ça m'a donné une autre approche aussi de ma musique et même d'autres envies, tu vois. Je fais un bond dans le temps, mais tu vois, quand on joue une chanson comme La Quête, tu sais, t'es forcément fier de te dire, vas-y, en vrai, putain, on fait une chanson, elle parle à trop de gens, tu vois tout le monde qui chante, c'est une dinguerie quand même.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des trucs que. Que j'aurais imaginé avant, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je vais avoir un peu plus l'envie de me dire des fois ah, c'est cool aussi quand même que les gens ils kiffent ta musique, tu vois.
Ouais.
C'est bien d'être clivant, mais c'est bien aussi de mettre les gens d'accord. C'est cool, quoi. Il y a une émotion comme ça que tu peux ressentir que sur scène, tu vois. Et c'est un peu ça la beauté de notre métier, c'est de voir qu'un truc comme ça fait dans une pièce peut transmettre autant d'émotions à autant de gens, c'est assez ouf. Donc, ouais, autre perception, mais qui n'enlève pas ce que je suis, tu vois. C'est juste, c'est notre corde à mon arc, et je vois que cette émotion, elle est dispo, et que si on veut, on peut aussi aller chercher là-bas.
Surtout qu'en parallèle de cette tournée, tu n'éteins pas l'ordinateur, tu ne fermes pas le logiciel. Alors d'ailleurs, c'est sur quel
logiciel? Jamais.
Voilà, c'est en quel logiciel en particulier, sur quel tu travailles, ça peut être intéressant pour
ouais, je travaille sur Ableton.
Donc tu fermes pas Ableton.
Non.
Tu continues de produire.
Ouais.
Et tu commences, parce que en travaillant évidemment pour quelqu'un comme Orelsan, collaborant avec lui, bah, ça te fait un nom, ça te permet à ton nom de circuler.
Exactement.
Et tu commences à rentrer dans cet écosystème du rap français.
Tout à fait.
Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas, tu as notamment produit des morceaux comme RR91 de Kobalade et Niska, RAC de SCH, et je pense que ça se passe à peu près à cette période-là, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est à peu près à ce moment-là, c'est pendant la tournée, et je profite un peu des moments, que ce soit en tournée, dans le bus, durant les festivals. Chaque petit moment de pause, en gros, me servait à faire de la musique, que ce soit tout seul ou même avec les potes, tu vois. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'étais très vite conscient que c'était un moment un peu charnière, mm-hmm, et qu'il fallait profiter de tout ça. Et j'y suis allé, tout simplement. Chaque opportunité qui se présentait, j'étais là.
Et alors, ce que j'aime beaucoup sur ces productions qui sortent signées à ton nom sur cette période, justement, pour des rappeurs français, donc j'ai déjà cité ces morceaux-là. Il y a aussi le morceau Feu régulier, je vais y arriver. Oui. Feu régulier de Sneezy.
Ouais.
Il y a quelque chose d'extrêmement, justement, là où il y avait des choses très mélodiques, c'était beaucoup plus arrangé d'une certaine manière, ouais, sur l'album d'Orelsan. Là, on sent le côté plus brut que tu arrives à, ouais, développer sur ces productions-là, quoi. C'est une envie de ta part, c'est des choses qu'on te demande, ou c'est un truc qui boue en toi, où tu te dis j'ai envie de faire des choses comme ça, tu vois, le piano un peu désaccordé derrière 9-1, le son presque neptunien, tu, ouais, sais, voilà, du morceau Feu régulier. Tu sens que c'est des choses qui bouillonnent un peu en toi et que t'as pas encore eu le temps d'exprimer, l'espace et le temps d'exprimer.
C'est
ailleurs,
exactement,
quoi.
Ça, ouais, c'est exactement ça. Il y a un truc que j'ai bien appris maintenant avec le temps, c'est que chaque chose a son contexte. Mm-hmm. Et donc c'est pas très grave de pas faire certaines choses dans d'autres contextes, mais il faut juste se trouver des possibilités pour aller exprimer d'autres terrains, mmh, et justement développer peut-être ces nouvelles envies dans les bons contextes, tu vois. Mais en gros, c'est une identité musicale qui a toujours été en moi, hein, mmh, tu vois. Moi, j'aime les trucs sales, rough, mixé de façon complètement démesurée. Je veux sentir les basses dans toute la pièce. Je sais pas comment dire. J'aime trop ça, quoi. Une forme de violence dans le minimalisme, j'adore, mmh, ça, quoi. Mmh. Et clairement, Aurel, c'est pas spécialement une personne faite pour ça, tu, mmh, vois ce que je veux dire. Donc je savais très bien que c'était pas quelque chose que j'allais faire avec Aurel, tu vois.
Ou alors sur un coup, peut-être sur un album précédent comme La mort du disque, par exemple.
Voilà, exactement.
Qui est un morceau très contextuel, voilà.
T'as tout compris.
Avec une thématique, voilà.
Voilà. Mais sur La fête est finie, il n'y avait pas le contexte pour ça, mmh, c'était pas du tout le sujet de l'album. Donc fin de l'histoire.
Ouais, alors que ça s'y prête mieux justement avec les artistes que tu rencontres à ce,
exactement,
moment-là.
Exactement. Ouais. Quand on me propose Kobalade, je me dis yes, c'est parti.
Et je lâche les chevaux.
Ouais. J'étais trop content. J'étais vraiment trop content.
Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres, prendre des années de terre, mais maintenant elle veut tout baiser avec moi. Sans demander mon avis.
Et avec le recul, je pense que ma carrière, je la vois un peu comme ça jusqu'à présent. C'est un peu une petite partie un peu plus musicale, mm-hmm, suivie d'une période un peu plus violente. Tu vois, peut-être une forme de schizophrénie musicale, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'arrive à très vite dissocier les périodes. Après, c'est vrai que c'est aussi souvent marqué par les tournées aussi, hein, qui forcément implique un cadre, tu vois, et me rendent pas forcément disponible sur tout un tas de projets.
Bien sûr.
Mais j'aime bien en tout cas explorer chaque facette de mon kiff musical, quoi, parce qu'avant tout, de toute façon, c'est du kiff.
Bien sûr.
Tu vois.
C'est la musique qu'on aimerait écouter déjà soi-même.
Exactement.
De faire. Voilà.
Tu me retires les mots de la bouche. Donc il y a un moment, si je fais pas ce que j'ai envie d'écouter, ça m'intéresse pas. Je suis avant tout un kiffeur de zik, quoi. Donc j'y vais. Et je me laisse pas de limite de ce côté-là parce que c'est de la musique, je sais le faire, et il y a toujours moyen d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'expérimenter de nouvelles choses à travers tout ça, tu vois, parce que je pense qu'on en est à un point dans la musique, on a tellement expérimenté de choses que les nouvelles associations, si on les cherche pas, on va pas les trouver, elles vont pas se présenter à nous, quoi.
Est-ce que pour autant, dans les propositions que tu as pu avoir, les opportunités, tu vois, les rencontres, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu as commencé à bosser, puis finalement, ça n'a pas matché ? Est-ce qu'il y a des productions de face, finalement, qui ne sont pas sorties, tu vois ? Parce que finalement, ce qui peut arriver, tu vois.
Il y en a trop plein.
Voilà, c'est ça.
Il y en a trop plein. Quoi, tu veux des noms ?
Ouais, bah, si t'as un exemple, ou tu sais, ou presque le cas contraire, d'un truc où tu t'es dit, bah, peut-être pas, et en fait, si. Enfin, tu vois, je sais pas si. Tu vois.
Non, mais en fait, tout est possible. Hein. Mmh. Franchement. Non, il y a eu plein de morceaux qui sont pas allés au bout. Même avec des artistes avec qui c'est allé au bout. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends l'exemple d'SCH. On a fait RAC, mais il y a eu d'autres morceaux et on les a peut-être pas finis et c'est pas très grave. Mmh. Tu vois ?
Mmh, bien sûr.
Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de bosser, tu vois ce que je veux dire ? Ou quoi que ce soit. Ah, c'est ouais. Juste. Je sais pas, c'est de la musique, tu vois.
Ah, ouais.
Il y a des moments où ça marche, c'est cool. Les planètes sont alignées, on s'est tous mis d'accord. Autant des fois, c'est pas très grave, tu vois. Et même, de toute façon, le but à la fin, c'est juste de faire le meilleur morceau possible. Donc, c'est cool.
Est-ce qu'il y a des interprètes, des artistes, des rappeurs qui ont pu te surprendre, justement, te dire, j'aurais jamais imaginé qu'ils prennent une prod comme ça, et finalement, ils l'ont prise.
Ouais, ouais. Bah, Soso Maness récemment sur le morceau qu'il a fait avec SCH.
SCH, ouais.
Ouais. Va jobber. Mm-hmm. C'était une prod un peu.
Oui, un peu.
Clairement,
un...
strip club. Tu
ouais, il y a un
dire.
Groove un peu californien
ouais,
aussi.
Vraiment, ouais.
Tu me sautes sur Twitter, mon frère.
Va jobber.
Tu grattes des sous à ta mère, c'est grave.
Va jobber.
Arrête de te mettre roucha pour air.
Va jobber.
Tu connais un tel, on s'en balèque.
Va jobber.
Et c'était une époque où en plus je revenais de LA et tout, donc j'étais clairement là-dedans et tout. Et cette prod, elle dormait depuis, je crois, 2-3 piges, quoi. Mais je sais pas, moi, je l'ai toujours aimé, cette prod. Donc, de temps en temps, je la glisse, tu vois, dans des dossiers que j'envoie. Même si j'essaie de pas trop envoyer de dossiers, j'aime pas trop ça.
Tu préfères le in situ, d'être avec les mecs directement, ouais.
Ouais, je trouve que ça match beaucoup mieux. Et puis, je sais pas, moi, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien capter un peu leur délire. Voir comment ça se passe, machin, tout ça. Parce qu'en vrai, je vais t'envoyer des prods, mais je sais pas dans quel contexte tu l'écoutes, je sais pas dans quel délire t'es, même si tu m'envoies des références, etc. En vrai, ouais, c'est tes références, mais je veux dire, je sais pas si t'es dans un contexte, t'es de bonne humeur, t'es de mauvaise humeur, j'en sais rien, peut-être ça se trouve tu t'es embrouillé avec je sais pas qui avant, etc. Eh, vas-y, viens, on se voit, on se pose. On discute.
On échange les vibes.
Exactement. Et là, peut-être, je te fais écouter des trucs où on part de zéro, tu vois. Mais je préfère ça. Je dis pas, viens, on devient meilleur pote, hein, je m'en bats les couilles, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Juste, on communique, tu vois. On communique, c'est cool. De toute façon, on fait un morceau ensemble, hein. C'est pas l'un contre l'autre. Hein.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Et en parallèle de ce qui se passe avec la tournée de La Fête est finie qui dure un petit moment parce que l'album rencontre, il continue à vivre en plus avec cette tournée puisqu'en plus il y a l'épilogue, enfin il est nourri encore de nouveaux morceaux sur lesquels vous travaillez. Il y a donc l'album Civilisation qui se crée.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des intentions précises de ta part justement ? Est-ce que parce que c'est des échanges, est-ce que toi aussi tu te dis tiens, j'aimerais bien, tu vois, peut-être faire ce genre de proposition à Aurel, tu vois, pour l'amener sur des nouveaux terrains.
Grave, 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 grave. Parce que c'est une chance de me retrouver aussitôt dans le projet, tu vois, par rapport à l'album précédent. Mmh. Donc, très tôt, je suis dans le processus de création et de suite, on peut envisager tout un tas de pistes inabordables, tu vois ce que je veux dire. Et même, en vérité, Aurel, il est friand de ça.
Qu'on le sort de sa zone de confort.
Ouais,
c'est
plus
ça.
C'est chelou, ouais. Plus tu passes par des trucs complètement différents, plus ça va le nourrir et potentiellement on va arriver vers quelque chose qui aura peut-être rien à voir avec ce qu'on a fait au départ. Hein. Mais c'est un peu ce qu'on a montré au final dans le doc, tu vois.
Donc c'est la deuxième saison de.
Ouais, la deuxième saison, exactement, ouais. En vrai, on passe par tout un tas d'étapes, quoi. Avant qu'on se dise, ok, c'est bon, le morceau est terminé. Il n'y a jamais rien qui est figé, quoi.
Sur cet album, il y a des coprods avec Scred, il y a des prods à ton nom propre. Ouais. Je pense notamment à Athéna et Rêve Mieux. Et là, j'ai presque eu l'impression de retrouver la petite fibre romantique, justement, du phase de SoundCloud.
Ah, tu fais plaisir.
C'est un truc que tu partages. Voilà.
Ouais. Surtout Rêve Mieux et tout. Ouais.
Rêve Mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse.
Rêve Mieux, je suis trop content de ce morceau. Parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus, on va dire, de mon esthétique d'il y a quelques années, quoi. Mmh. Donc ce truc un peu presque naturel chez moi, en fait. Tu vois. J'ai envie de te dire, demain, tu me demandes de faire une prod en 5 minutes, je crois que je fais ça. Tu vois.
Je fais ce genre de mood, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Un truc très lent, très dans l'émotion, les harmonies, les textures, tu vois.
Mais là, y a... justement, je me suis toujours demandé si sur Rêve Mieux, c'est sa voix à lui que tu retravailles, c'est un sample vocal.
C'est nos voix.
C'est vos voix, d'accord.
C'est nos voix. En fait, j'utilise un peu des voix d'Aurel. En fait, je lui demande de superposer plein de... Je lui fais chanter un peu n'importe quoi, genre des « oh, ah, ah », tu vois, à différentes hauteurs. Et moi, on va dire, je les sens, je les retravaille pour en faire ce genre de chœur un peu derrière. Mm-hmm. Moi, derrière, ensuite, j'ai rajouté ma voix à des moments qui fait des genres de vibes un peu dans des autotunes et tout. Un peu comme un sample, quoi. Mm-hmm.
T'as créé ton propre sample, ta propre matière sonore que t'as retravaillé, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, au final, bah, c'est un mélange de nos voix qui se baladent derrière avec, bah, du coup, les 808, tout ça. Et un peu de prophète aussi, des petits synthés comme ça, à droite à gauche. Mais au final, très minimaliste, quoi. Très autour des voix. Parce qu'au départ, on voulait un peu faire un truc un peu Bon Hiver, tu vois.
James Blake.
Ouais, aussi un peu. Exactement. C'est tous ces trucs un peu texturés.
Très ambiants.
Voilà, exactement. On comprend pas trop ce qui se passe, mais en même temps, tu kiffes, tu vois.
Tu te laisses emporter.
Ouais. Ouais. Donc non, je suis très fier de ce morceau.
Cet album, c'est aussi la consolidation de votre collaboration avec Scred.
Ouais.
Il y avait deux coproductions, tu parlais tout à l'heure de La Quête, mais il y a le premier single qui est L'Odeur de l'essence.
Grave.
C'est une question que j'aime beaucoup poser quand justement à ce micro, des personnes viennent et ont l'habitude de travailler avec un autre producteur. C'est pour toi, c'est quoi le point fort les points forts de Scred que toi, tu n'as pas forcément, mais que tu arrives à compléter avec d'autres qualités que lui n'a peut-être pas?
On va dire qu'une chanson, tu vas dissocier l'aspect technique et l'émotion. Mmh. Je crois que lui, sa grande force, c'est de capter de suite ce qui est fort ou pas dans un titre.
En termes d'émotion, justement.
Voilà. Il va de suite comprendre comment le titre peut être utilisé et dans quelle mesure il peut être un outil dans l'album et dans quelle mesure on peut... le pousser à son paroxysme de l'efficacité, quoi. Et qu'il soit à sa juste place dans l'album. C'est ça, sa force de malade. Là où moi, je le complète bien, je pense, c'est justement sur tout ce côté nerd, en fait. Je suis bien nerd. Je suis toujours dans les derniers plugins, les derniers machins.
T'as la casse à outils, quoi. Pour essayer de trouver la bonne émotion, le bon truc, tu l'as.
Exactement.
Ouais.
Et même si on l'a pas, je suis... fort de propositions pour trouver des petites parades.
Ok.
Et j'adore ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup aussi dans la musique, c'est d'essayer de créer des fois des nouvelles textures, des nouveaux sons, d'essayer de générer moi-même mes propres sons. Parce que je trouve qu'on est quand même dans un domaine où la musique se lisse quand même de plus en plus.
Se standardise.
Voilà. Et que c'est toujours cool un peu de stimuler la créativité.
Est-ce que L'Odeur de l'essence, c'est un cas concret de ça? De ce que Grave. Tu expliquais sur la vision qui se complète entre Scred et toi et justement d'aller chercher des textures qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Ah bah grave. Grave.
La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés.
L'odeur de l'essence, au moment où on commence à bosser ensemble, sur le titre, il y a déjà, comment dire, il y a déjà un peu la base du truc, quoi. C'est-à-dire que au moment où Aurel était venu bosser chez moi, il y avait déjà, on va dire, une bonne base, genre les batteries, un peu le sample, la basse, tu vois, et un genre de bout de couplet, quoi. Mais je crois qu'Aurel, il était pas trop dedans au début. Et au final, si je me trompe pas, Scred, au final, c'est lui qui dit « Non mais attends, de toute façon, regarde, t'as ça, tu vas le finir. Et ça va être bien. » Tu vois
La raison.
Ouais, exactement, tu vois. Et lui, il a vraiment cette force de justement... canaliser Aurel et de justement des fois lui montrer que des fois c'est sous son nez, quoi. Mais ça, c'est comment dire,
c'est leur dynamique,
c'est ça, tu vois. Voilà. C'est normal, ça fait tellement d'années, ouais, tu vois, qu'ils sont ensemble, qu'ils se complètent, c'est leur façon de bosser à la base, quoi. Mm. Et puis je pense qu'Aurel aussi, il aime bien se torturer aussi.
Ça s'est senti justement sur les deux saisons de Ne montre ça à personne, ça s'est bien senti. Depuis, t'as aussi travaillé avec un autre artiste et ça montre encore peut-être ta plus grande palette, c'est un artiste comme Simia.
Ouais.
Où là, on est sur un album où on sent ses influences rap, musique électronique, mais aussi des choses beaucoup plus pop-rock.
Ouais.
C'est un des disques les plus récents justement sur lesquels t'as travaillé. C'est comment tu rencontres cet artiste et est-ce que c'est aussi des choses où t'es force de proposition, où il y a un échange. Comment ça se fait, en fait, cette EP?
Ça se fait via une rencontre d'un ami en commun, en fait, qui me présente Imia et qui me dit, voilà, je pense que vous pourrez bien vous entendre et tout, ce serait cool que vous vous rencontriez. Et moi, honnêtement, l'univers un peu, entre guillemets, les identités rock, un peu alternatif, anglaise, etc., presque un peu punk, c'est des trucs, moi, que j'ai écouté plus jeune, tu vois.
Parce que, de mémoire, tu m'avais raconté que ton père, il vient de cette culture rock, en plus.
Ouais, exactement.
T'as peut-être été sensibilisé assez tôt à ça aussi.
Ouais,
quoi.
Assez, ouais. Mon père avait pas mal de vinyles à la maison, etc., donc c'est des choses qu'on écoutait vachement. Mm-hmm. Et ça fait un peu partie de ma culture musicale, quoi, mm-hmm, tu vois. C'est un truc que... J'ai fait des concerts, je suis allé voir pas mal de trucs que je kiffais, etc., tu vois. Donc c'est une énergie qui m'est très familière et à laquelle je suis assez sensible, donc très content d'aller explorer un peu ces terrains, tu vois. Au départ, en fait, quand on me parle de Simia, je me dis « Ah, ça peut être cool, quoi ». Tu vois, je le vois pas trop comme un crossover un peu nul, je sais pas comment dire, de deux mondes qui vont pas ensemble, quoi. Je le vois vraiment plus comme un truc de genre « Ah, enfin !» Je sais pas comment dire.
Ouais, je comprends.
Parce que ça...
Ça fait partie des envies dont on parlait tout à l'heure quand t'as fait les prods très brutes du rap. C'est peut-être aussi un truc où tu te dis « Ah !»
Ouais, exactement. Je me dis « Putain, c'est dommage, on n'a pas encore expérimenté ces pistes. » Tu vois. Alors que les Quinry l'ont fait là depuis pas mal d'années... Mmh. On va dire sous leur version un peu plus justement Quinry, donc un peu plus Blink, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Mais la version vraiment rock anglaise, un peu brute, tu vois, Arctic Monkeys, machin, tout ça, pas trop de gens qui ont pris cette vague. Ce qui me paraissait un peu bizarre, parce que pour moi, justement, un groupe comme Arctic Monkeys a une approche très peu rare. Mm-hmm. Tu vois, dans la façon dont il chante, dont c'est écrit, dont c'est rythmé, etc. Donc en fait, pour moi, c'était une passerelle assez logique, mais qui s'est jamais vraiment réalisée. Je sais pas trop pourquoi. Donc j'étais assez content de voir quelqu'un qui pouvait aller chercher dans ses esthétiques et ça s'est très bien passé. On a passé quelque chose comme 2 semaines chez moi aussi, à bosser, plus encore quelques semaines aussi sur Paris en studio, à explorer justement toutes ces nouvelles esthétiques un peu qui se croisent entre cette pop, rock, rap, parce que lui il vient de ça à la base, tu vois, il rappe beaucoup. Donc c'était assez enrichissant en fait d'aller chercher là-dedans, et ça m'a nourri dans, on va dire, d'autres choses. J'en avais besoin à ce moment-là.
Alors justement, on a beaucoup parlé de ton parcours jusqu'à très récent.
Ouais.
Dans le futur, est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu veux reprendre ta carrière sous ton nom, refaire des choses avec toute cette musique hybride qui a fait ta réputation? Est-ce que tu veux faire de la musique à l'image? Est-ce que tu... Voilà, c'est quoi là dans l'immédiat un truc qui... Parmi tous les trucs qui pourraient t'exciter, parce qu'encore une fois, tu disais à quel point tu avais cette curiosité, cette appétence, tu vois, de vouloir comprendre et faire plein de choses. Dans l'immédiat, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un truc en particulier, tu vois, sur lequel tu aimerais aller?
Il y a pas mal de choses. La musique à l'image, en plus, cette année, c'est quelque chose que j'ai déjà un peu exploré. Donc, je vais sûrement continuer à le faire. J'ai évidemment envie de ressortir de la musique en mon nom. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver au cours de l'année. Et c'est pas des conneries. Ça va,
c'est
vraiment...
pas du bullshit.
Non,
c'est
non.
Du concret. Okay.
Non, c'est du concret. Parce que justement, je suis un peu dans une recherche un peu sonore en ce moment, et que après toute cette période, on va dire, à faire des titres très loud, très mainstream, j'ai un peu envie de revenir à des trucs un peu chelous, et profiter, on va dire, d'une petite capsule temporelle où je vais justement aller chercher. Et ça s'instaure un petit peu dans tout un tas de réflexions que j'ai actuellement, et de nouvelles choses que je découvre à travers de nouvelles envies, et notamment dans la tech, tu vois. Je m'apprête bientôt à peut-être sortir, même très sérieusement sortir, des VST.
Oh.
Ouais. Donc en fait, ça fait quelque temps là que je me suis associé à des développeurs. On bosse depuis pas mal de temps ensemble pour développer des instruments logiciels, que ce soit sur plateforme mobile, donc sur iPad ou sur ordinateur. Et on est assez contents parce que on commence à avoir des résultats très très cool d'outils qu'on serait bientôt fiers de proposer. Et qui stimulerait en gros un petit peu la créativité des utilisateurs, quoi. Un peu dans ce que je t'expliquais tout à l'heure, quoi. Je trouve que la musique aujourd'hui se lisse un peu trop, et que ça serait cool un petit peu d'offrir des nouveaux moyens et des nouveaux outils pour justement stimuler un peu cette créativité, et même de la contraindre. Parce que je pense que c'est en étant contraint qu'on est le plus créatif.
Bien sûr, c'est quand on a le dos au mur parfois qu'on peut être...
Exactement.
Qu'on trouve les ressources intellectuelles, ouais, et créatives, exactement, pour les dépasser.
Donc à suivre cette année, je pense. Voilà.
Je vais te poser une dernière question parce qu'après, tu dois filer.
Ouais.
On est au moment où on enregistre, le jour où il y a les Victoires de la Musique notamment.
Exactement.
Donc voilà, tu as un agenda assez chargé. Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro. Elle n'est pas facile, donc je te laisse quelques secondes de réflexion. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaîtrait pas ta musique et ton nom, quel morceau que tu as produit, tu donnerais en premier? Le truc qui te semble peut-être le plus représentatif de tes multiples envies musicales, donc c'est compliqué, t'es un peu un caméléon, mais un truc, voilà. Ton son, s'il y avait une prod en particulier, ce serait lequel? Le son phase.
J'ai presque envie de te dire Goliath de Woodkid. The chest and the head divided by white laser. The pattern of mouth strobes are going haywire. Grandiloquence, texture, un peu nerd, et en même temps chanson, quoi. Mais en même temps très bizarre.
Ouais, et puis tout cet héritage musique électronique, rap qu'on peut
exactement
entendre aussi dans ce morceau-là.
C'est ça. Et très contrasté aussi, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Donc je trouve que celui-là, il coche pas mal de cases. Ah, c'est difficile d'en choisir un.
Je sais. Trop tard.
Waouh.
Tu me dis celui-là. Mais c'est bien, ça donne une porte d'entrée pour les auditeurs.
Non, mais celui-là, ça va, en plus, il est classe,
voilà,
tu vois.
Ouais, ouais.
Il nous a nominés au Grammy et tout. Franchement, c'est cool, tu vois.
Puis c'est pas mal de terminer là-dessus parce que On a parlé d'Aurel, évidemment, et peut-être que des gens qui vont écouter ce podcast connaissent déjà ton travail pour Alsan, pour SCH, pour, tu vois, pour tous ces gens qu'on a cités. C'est peut-être une belle porte d'entrée, tu vois, pour présenter encore une autre de tes palettes. Et puis, c'est un morceau très représentatif de ta discographie aussi.
Écoute, en tout cas, je suis ravi de l'entendre.
Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci à toi d'avoir été là avec nous.
Merci à toi pour l'invitation, Raph.
Merci à toi. Le podcast BPM de Bouscapé, où on échange avec des producteurs sur leur créativité, leurs inspirations, leurs réflexions musicales. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les anciens épisodes et les futurs qui arrivent. À très bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.